La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message. J'ai entendu dire qu'une fusée russe Soyouz allait bientôt décoller de la Guyane. C'est quoi cette histoire ?
Au CNES, celui qui sait, c'est Jean-Marc Astorg, sous-directeur à la direction des lanceurs. Allô, Jean-Marc ?
Oui.
Est-ce que tu peux nous décrire cette fusée russe Soyouz et nous dire ce qui la différencie de notre Ariane 5 ?
Bon, les fusées Soyouz et Ariane 5 sont assez différentes. D'abord, elles sont différentes par la taille. Ariane 5, c'est un lanceur lourd, donc qui est spécialisé dans la mise en orbite de satellites géostationnaires, bon, satellites de télécom qui sont placés sur des orbites elliptiques qui permettent ensuite aux satellites d'atteindre l'orbite géostationnaire à 36 000 km. Et Soyouz, c'est plutôt un lanceur moyen qui est spécialisé dans les orbites qu'on appelle basses, donc plutôt des altitudes de quelques centaines de kilomètres. Et c'est typiquement un lanceur qui est bien adapté pour lancer des satellites d'observation, des satellites de défense ou des missions vers la Station spatiale internationale.
Pourquoi l'Europe spatiale a-t-elle décidé de se tourner vers la Russie ?
Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'Europe ne disposait pas d'un lanceur moyen avant Soyouz, puisque Ariane 5 est spécialisée, comme je l'ai dit, donc sur les satellites de télécom qui sont lourds. Typiquement, pour Ariane 5, c'est entre 3 tonnes et 10 tonnes. On aura avec Vega un petit lanceur qui permettra de lancer les petites charges utiles, quelques centaines de kilos, mais on n'avait pas de lanceur moyen. Donc ça, c'est la première raison. Il y a évidemment un effet d'opportunité qui est lié à l'évolution du secteur russe des lanceurs qui a fait qu'à un moment donné, des coopérations sont devenues possibles avec la Russie alors que ce n'était pas possible auparavant. Et donc c'est ce qui a fait que l'Europe et la Russie ont trouvé un accord pour lancer le lanceur russe depuis la Guyane française. Étant entendu que la Guyane française est l'un des meilleurs sites de lancement au monde, idéalement situé sur l'équateur, et donc sans équivalent évidemment en Russie.
Et comment sont répartis les rôles entre le CNES, l'ESA, Arianespace et les spécialistes russes ?
Alors l'ensemble du projet est placé sous l'égide de l'ESA, qui est le maître d'ouvrage, qui finance par une participation des États membres par l'intermédiaire d'un programme la réalisation de l'ensemble de lancements Soyouz en Guyane et qui passe, c'est donc l'ESA qui passe un contrat au CNES pour la réalisation de cet ensemble de lancements et en particulier la construction d'un nouveau pas de tir et l'adaptation de du lanceur russe pour les conditions de lancement depuis la Guyane. Donc le CNES est une sorte de maître d'œuvre du projet dans sa phase de développement. En phase d'exploitation, c'est Arianespace qui va exploiter Soyouz en Guyane au même titre que Ariane 5 ou Vega. Donc c'est Arianespace qui mettra en œuvre, avec l'aide bien entendu des spécialistes russes, le lanceur Soyouz depuis le CG.
Alors aujourd'hui, où en sont les travaux de construction du nouveau pas de tir au Centre spatial guyanais ?
Alors l'ensemble de lancement Soyouz est pratiquement terminé en Guyane. Toutes les installations, tous les bâtiments sont terminés déjà depuis presque un an. Les systèmes que l'on installe dans ces bâtiments sont eux aussi installés et pratiquement testés individuellement. Ce qu'il nous reste à faire, ce sont les essais d'ensemble, donc faire fonctionner tous les systèmes entre eux et faire une sorte de répétition des opérations de préparation lancement avec un lanceur. Aujourd'hui, on a deux lanceurs russes qui sont déjà sur site en Guyane et on va en utiliser un pour faire des répétitions de préparation au lancement. En particulier, le lanceur qui est aujourd'hui dans un bâtiment va venir sur la zone de lancement. On va le mettre à la verticale et on va réalisé pratiquement toutes les opérations jusqu'au H0. Bien entendu, on n'ira pas jusqu'au H0. Et ensuite, on commencera, une fois qu'on aura démontré que l'ensemble du pas de tir est opérationnel, on commencera la campagne de lancement avec les satellites du premier lancement.
Mais alors, ce premier lancement, il est prévu pour quand ?
Alors aujourd'hui, c'est la disponibilité des satellites qui va déterminer la date du premier tir. Ce que je peux vous dire, c'est que tous ces essais dont je viens de vous parler seront terminés à peu près en février-mars. Donc ensuite, tout dépendra des satellites effectivement qui seront lancés lors de la première mission. Rheinespace est en cours de discussion avec différents clients pour savoir lequel passera en premier pour la première mission.
Merci, Jean-Marc Astorg.
Ah, merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Infrarouge. La vision humaine est décidément bien imparfaite. Alors que dès notre plus jeune âge, nous nous fions aveuglément à elle pour partir à la découverte du vaste monde, elle ne suit en réalité qu'un étroit sentier borné par les deux extrêmes de l'arc-en-ciel. Le violet d'un côté, et de l'autre, le rouge. Pourtant, au-delà du rouge des roses à peine écloses et du carmin des lèvres de l'être aimé, il y a encore de la beauté et du mystère à découvrir. Ce domaine mystérieux, c'est l'infrarouge, appelé ainsi car cette onde est d'une fréquence inférieure à celle de la lumière rouge. Notre peau capte cependant les infrarouges sous forme de chaleur lorsque nous passons à côté d'un radiateur allumé. Toutefois, la vraie beauté des infrarouges est ailleurs. Quand vient la nuit et que le ciel est dégagé, nous n'avons Dieu que pour les étoiles et leurs mille feux colorés. Mais si, comme le satellite Herschel, nous étions dotés de capteurs infrarouges et portés par Ariane au-delà de l'atmosphère, c'est une vision entièrement nouvelle de l'univers qui s'offrirait à nous. Là où nos yeux trop humains ne distingueraient qu'obscurs nuages, Herschel, grâce aux infrarouges, perce le voile de ces immenses cocons de gaz et de poussière, révélant autant de pouponnières stellaires où les étoiles se pelotonnent en douce pour se mitonner un avenir radieux. Plus loin encore, entre 5 et 10 milliards d'années-lumière de nous, ce sont d'immenses galaxies entrées en collision qui, en infrarouge, brillent 100 fois plus que dans le visible. En révélant ainsi ce qui est très loin de nous ou dissimulé derrière d'épais voiles de poussière, l'infrarouge, bien qu'invisible, éclaire d'un jour inédit notre compréhension de l'univers.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Une histoire de capsule. La capsule du site du CNES a été soumise à rude concurrence au cours de ces dernières semaines. Comment aurait-elle pu, en effet, prendre la vedette à celle qui, le 13 octobre dernier, a permis de mettre fin à l'involontaire réclusion des 33 mineurs de Copiapo ? Phoenix, puisqu'elle avait été ainsi baptisée par ses concepteurs, peut aujourd'hui prendre place aux côtés de la capsule d'Apollo 13, qui, en 1970, avait permis à trois astronautes américains de retrouver, sains et saufs, le plancher des vaches, après une opération de secours tout aussi extraordinaire menée entre la Terre et la Lune. Pour ces rescapés, chiliens, boliviens ou américains, il ne fait aucun doute qu'il y a eu et qu'il y aura toujours un avant et un après l'accident dont ils ont été les victimes. Un avant et un après le sauvetage dont ils ont été les acteurs et les bénéficiaires. Bref, l'expérience d'une sorte de nouvelle vie dont le lien avec l'ancienne a pris la forme d'une capsule. Ce lien entre les profondeurs de la Terre, pesantes, chaudes et humides, et le cosmos, vide et froid, n'est pas fortuit. Charles Bolden, l'administrateur de la NASA, l'a établi lorsqu'il a annoncé que les opérations de secours au Chili allaient utiliser l'expérience des vols spatiaux. Mais il ne fait aucun doute que les spécialistes réunis en ce moment autour de l'expérience Mars 500 ne négligeront pas les leçons tirées du sauvetage de Copiapó. Démarrée en juin dernier, cette mission ne quittera pas le sol de Moscou, tout en permettant de simuler un voyage aller-retour vers Mars, un atterrissage et un séjour à la surface de la planète rouge, le tout en 520 jours et pour 6 hommes d'équipage, dont un Français. D'un côté donc, 33 hommes entre 19 et 63 ans, 69 jours et 600 mètres de sol à traverser. De l'autre côté, 6 hommes entre 26 et 38 ans, 520 jours et un simple sas. Toute comparaison, toute analogie entre ces deux situations devra être posée avec précaution. Mais les enseignements à tirer n'en seront pas moins riches. Le premier et sans doute le plus évident est l'importance de la solidarité. Qu'il s'agisse de survivre ou d'explorer, l'être humain est d'une manière ou d'une autre l'envoyé de l'ensemble de l'humanité. Il doit le savoir, l'entendre et l'éprouver sans délai ni défaut. La solitude et la mort ne manquent pas d'affinité. Le second enseignement que je retiendrai s'attache à une étymologie, celle du mot « catastrophe ». Les auteurs grecs désignaient ainsi la dernière strophe et par voie de conséquence l'issue d'une tragédie. Cette issue peut être heureuse ou malheureuse. Elle doit être, autant qu'il est possible, préparée. Les 33 mineurs l'étaient. Les 6 hommes de Mars 500 le seront aussi. Mais l'aventure humaine, spatiale ou non, nous réserve encore bien des catastrophes. Ne nous revient-il pas de les prévoir, lorsque nous en sommes capables, mais aussi de nous préparer à construire les capsules qui nous permettront d'y survivre et d'en renaître grandi, enrichi.
Alors allons-y.
Allons-y. La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui.
Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre? C'est qui a les clés?
Allez, à la prochaine.